Alors bonjour à tous pour ce deuxième dimanche de la rentrée. Et comme le premier dimanche était quand même avant la rentrée, on n'était pas encore tous là. On est un peu plus nombreux ce matin. Alors cette rentrée, on fait une exception à ce qu'on fait habituellement à Pont. Normalement, on prend un livre entier de la Bible et on le prêche de façon suivie. Et puis c'est un peu une habitude de la rentrée de faire quelques exceptions là-dessus et de prendre des thèmes. Et donc c'est un peu plus ardu et complexe parce qu'on essaie de dire tout ce que la Bible dit en 66 livres en un seul message. Et donc on fait une série de 4 messages sur notre mission en tant qu'église. Donc c'est pas juste nous, notre église ici à Pont, mais en tant qu'église chrétienne, une église qui croit en la Bible. Qu'est-ce qu'il faut voir? Pourquoi on est là? Et c'est vraiment quelque chose qui est universel. Donc c'est 4 points que nous, on a formulé, d'autres le formulaient autrement, sans problème. Mais il y a ces 4 composantes qui apparaissent. La première, c'est aimer Dieu. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Et franchement, si tu as raté dimanche dernier, ça commence là. Ça commence avec un amour pour Dieu, en voyant ce que lui, il a fait. Comme Jean-Luc l'a si bien lu là, dans 1 Jean 4. C'est parce que Dieu aime d'abord que nous réagissons, nous répondons à son amour, et on ne peut pas faire le reste de ce qu'un chrétien devrait faire si on n'a pas d'abord réalisé qu'on ne peut rien tout seul et qu'on a besoin de placer notre confiance en Dieu. Croire que Jésus est mort pour nos fautes, pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors c'est aimer Dieu, et si vous avez raté le message dimanche dernier, n'hésitez pas à aller l'écouter sur le site ou sur le podcast de l'Église. Et ce qu'on a aussi dit, c'est que comme première étape pour quelqu'un qui se pose des questions sur Dieu, on t'inviterait à commencer vraiment là. Et l'étape pratique, une mise en application directe, c'est reviens au culte dimanche après dimanche, dans le but, avec l'intention de connaître ce Dieu. Pas de venir forcément pour avant tout la communauté, pas avant tout pour passer un bon temps, pas avant tout pour donner des bonnes apparences, pas pour viens connaître, découvrir ce Dieu. Parce que tout commence avec Dieu et le reste en découlera et on peut même pas vivre le reste s'il n'y a pas cette connaissance de Dieu. Le deuxième point de notre mission d'église, c'est aimer l'assemblée. On va être dessus ce matin. C'est tout comme Jésus dans Marc 12 la semaine dernière dit, résume toute la loi, les plus de 600 commandements de la loi juive en 2 commandements, aime le Seigneur ton Dieu et aime ton voisin, ton prochain comme toi-même. Nous, on a choisi de mettre ça vraiment bien en avant. Aime Dieu et aime l'assemblée. Donc, c'est ton frère, ta sœur chrétienne qui croit aussi comme toi que Jésus est mort pour nos péchés. Troisième, et le point concret de mise en pratique, c'est les groupes de maison. On va en parler dans le message. Troisièmement, c'est aimer la ville. C'est que si on aime son prochain qui croit en Jésus, on invite aussi, et on est invité par la Bible, à aimer tous ceux qui nous entourent. Et on va voir le projet de Dieu, comment les chrétiens sont censés s'impliquer dans nos villes. Et quatrième point de notre mission d'église, c'est aimer transmettre. Et c'est pour ça, si vous avez déjà entendu des messages comme ça sur la mission de l'église, le but de l'église, souvent, aimer transmettre et négliger. On semble négliger, mais en fait, ils l'ont mis dans les autres points. Mais on a voulu le mettre en tant qu'implantation d'église, on a voulu montrer que tout chrétien est appelé à aussi faire connaître cette bonne nouvelle, et on l'a mis en points séparés. Donc, ce matin, on est dans aimer l'assemblée, le deuxième point de notre mission d'église. On va passer la plupart de notre temps dans un texte, dans Colossiens 3, page 775. Page 775, Colossiens 3, mais parce que c'est un sujet qui est dans toute la Bible, on va quand même regarder un peu ailleurs, et je vais essayer de perdre personne. Et si tu n'as pas encore de Bible blanche, il en reste dans la pile, tu peux lever la main encore si tu arrives plus tard et tu ne l'as pas, ou si tu as zappé le moment, ce serait vraiment chouette que tu aies une Bible. C'est bon, personne? Il n'y a pas de honte à lever la main? Ok, donc Colossiens 3, on va lire le texte et on va se poser 3 questions. Naël, si tu veux bien montrer les questions. Qui est appelé à aimer l'assemblée, qui doit aimer, pourquoi cet appel, et enfin, comment obéir à cet appel d'aimer. Donc, questions toutes simples, elles sont toutes dans le texte. On ne va pas voir tout ce qui est dans le texte. On vient au texte avec nos questions et on va essayer de vraiment voir ce que Dieu dit en réponse. Je vais lire le texte dans Colossiens 3, les versets 9 à 17, pour qu'on ait un peu plus de contexte, et puis après on va se concentrer sur quelques versets. Colossiens 3, 9 à 17. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout ça, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, on arrive sur aimer l'assemblée. Et franchement, je ne peux pas dire que c'est le plus compliqué des quatre points de notre mission d'église, mais ça ne va pas être facile. On est une culture qui va rejeter de beaucoup de ce que Dieu veut pour nous, en fait. Hein. J'en parlais juste vendredi soir avec quelqu'un qui déplorait l'individualisme de la société et que oui, ce serait tellement chouette si on accompagnait mieux les jeunes qui vont prendre des choix de vie mais déterminants, ils vont droit dans le mur, tout ça, parce qu'ils désobéissent à Dieu et ils le savent, mais on vient pas leur dire. Je dis ouais, c'est top, mais franchement, dans la société individualiste dans laquelle on vit, c'est hyper compliqué d'oser parler à quelqu'un d'autre de qu'est-ce qu'on voit dans sa vie. Nous, on avait une copine à un public qui nous avait raconté, donc elle était congolaise d'origine, elle nous avait raconté une anecdote, ce qu'elle avait vu à Paris, qu'on verrait jamais entre Français. Elle était dans le métro, les détails sont pas importants, l'essentiel est absolument authentique. Elle était dans le métro, là, il y avait une jeune fille qui avait un pantalon un peu taille basse, on voyait son string. Elle était noire, je sais pas de quelle origine, mais elle était là, il y a plein de monde, tout ça. Et un monsieur dans la cinquantaine, noir aussi, qui vient vers elle et dit « Mais ça va pas, tes parents auraient honte de comment tu t'habilles, relève ton pantalon !» Et la fille lui dit « Oui, tonton !» Et hop, elle lève son pantalon, fini, et on continue, le métro continue à avancer. Et donc là, dans une culture africaine, je sais pas de quel pays, mais il y a un rapport différent à l'individu et la communauté, où on s'attend à ce qu'une personne plus âgée, homme, femme, de la famille ou pas, un complet inconnu, c'était un complet inconnu qui est venu lui dire de relever son pantalon, un homme en plus. Elle l'a fait, parce que voilà, c'est comme ça. La communauté est différente, le rapport. Et je dis pas que tout est parfait dans ces cultures non plus, on va le voir, ce que dit la Bible par rapport à nos cultures, par rapport à justement le projet de Dieu pour chaque culture. Mais ça nous semble étranger pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Genre nous, on prendrait, mais de quoi je me mêle? Pour qui tu te prends? De me parler comme ça, d'oser regarder ma tenue vestimentaire. Et ici, on est dans quelque chose qui va commencer à parfois chiffonner. Parce que Dieu nous appelle à avoir beaucoup plus d'interactions en communauté que ce qu'on a l'habitude d'avoir, même plus qu'on aurait envie d'avoir. Donc, qui doit aimer l'assemblée, où je vais souvent parler de qui est appelé à aimer la communauté chrétienne, à s'aimer les uns les autres. C'est clairement, si vous regardez ce qu'on a lu, même avant, chapitre 3, verset 1, donc la première phrase tout en haut de la page. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc à qui est-ce que cette lettre s'adresse? À ceux qui pensent que en Jésus, en croyant que Jésus est mort pour nos péchés, nous sommes aussi morts avec lui, et donc nous commençons une nouvelle vie avec lui, cette fameuse résurrection, on commence une nouvelle vie. Donc s'adresse à des chrétiens. Verset 9 qu'on a lu, il dit « Car vous vous êtes dépouillés du vieil homme ». Donc il donne une instruction en leur rappelant « Mais vous avez cru en Jésus et donc vous vous êtes débarrassés de cette ancienne façon de vivre, ce vieil homme ». Et dernier indice qui parle bien des chrétiens, verset 12 « Ainsi donc, bien-aimés, ainsi donc en tant qu'être choisi par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous ». Donc il parle à des chrétiens et je dois encore le rappeler. Si tu es en chemin, si ce qu'on a chanté te semblait étrange, pas de problème, tu es le bienvenu. Mais s'il te plaît, commence avec découvrir qui est Dieu. Découvrir qu'est-ce qu'il a fait en devenant homme pour mourir à la croix pour nos péchés. Fais un groupe découverte de la Bible. Tu peux venir me voir, tu peux voir Jean-Luc, tu peux voir un des autres responsables, il y a Bruno, il y a Mathieu. Nous demander de faire un groupe découverte de la Bible. Plein de personnes dans l'Église savent faire ça. C'est un petit schéma, un petit parcours de 12 extraits du grand fil rouge de la Bible. Découvre qui est ce Dieu. Parce qu'ensuite, tout le reste de ce qui va être dit dans cette série de 4 messages s'adresse à ceux qui ont cru ce message, ce fil rouge. Donc, s'adresse aux chrétiens. Donc, qui doit aimer? Les chrétiens. Deuxième question, pourquoi devrait-on aimer? Alors Jean-Luc, il nous a lu un super texte ce matin, et j'avoue que j'étais très 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 tenté de prendre ça ce matin, et donc j'ai bien fait de ne pas le faire. Pourquoi aimer? La réponse que Jean-Luc nous a lue, c'est parce que Dieu nous a aimé en premier. Mais dans le texte ici, on a deux autres éléments. Regardez avec moi le verset 10. 9 et 10, puisque c'est une pensée. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Donc des phrases denses, là. C'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut en dégager? Pourquoi aimer? Est-ce que ce verset répond? Paul utilise une superbe image. L'image, je ne sais pas si vous l'avez attrapée, vue. Vous avez revêtu l'homme nouveau. C'est l'image du vêtement. Tous les jours, on choisit des vêtements et on les porte et on sort. On ne sort jamais sans les avoir mis normalement, sauf peut-être nos enfants, parfois. Et là, il prend cette image-là. Vous vous êtes débarrassé des anciens vêtements, cette ancienne façon de vivre. C'est pas exactement le sujet, mais on pourra voir de quoi ça concerne. Mais ici, il dit, et vous êtes renouvelé, vous êtes revêtu de l'homme nouveau, d'une nouvelle identité, d'une nouvelle façon de vivre. Et c'est absolument énorme ce qui est dit ici. Pourquoi devrait-on aimer? C'est parce que Dieu a commencé un processus en nous, le jour où on a cru en lui. Et c'est cette idée-là qu'on voit. Vous avez revêtu l'homme nouveau, parce que ce n'est pas statique, vous avez vu? Qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Donc l'idée, c'est que en croyant en Jésus, Dieu commence un projet de transformation, de restauration, de renouvellement, il retape tout, quoi. Et c'est progressif, et ça va aller de mieux en mieux. Et c'est un projet qui va durer toute la vie. Et c'est, donc là, je commence à sortir une image, Paul parle de vêtements, mais nous, en fait, c'est un peu des vêtements qui se mettraient à jour, tous les jours, aussi. Vous voyez un peu l'image, hein, c'est ça, hein. On met un vêtement, et ce vêtement se renouvelle. Se renouvelle à fur et à mesure qu'on progresse dans la compréhension de la bonne nouvelle, à fur et à mesure qu'on obéit, à fur et à mesure qu'on, qu'on prend les bonnes décisions, de vivre comme cette nouvelle identité exige de nous. Donc on a ici les fameux... en fait, dans notre technologie, nos vêtements ne font pas encore ça. Donc c'est quoi? C'est les téléphones qui se mettent à jour, on fait une mise à jour et boum, de jour en jour, hop, il y a une nouvelle fonctionnalité sur le téléphone. Là, c'est ça, on est en train de progressivement changer, et c'est là où il y a une grosse parenthèse maintenant que j'ouvre, ok? Je voulais vraiment qu'on voit le projet de Dieu. Que tu sois chrétien ou pas, le gros, gros, gros projet de Dieu, ça est à propos d'une communauté. C'est pas juste individuel. Donc regardez avec moi les... C'est pour ça qu'il fallait vraiment une Bible. On va parcourir. Donc c'est page... C'est pas en fait la page 1, c'est la page 3. La première page de la Bible, c'est la page 3. On entend souvent plein de questions sur pourquoi le monde est comme il est, pourquoi tant de haine, pourquoi mes parents m'ont rejeté, pourquoi il y a une division dans la famille, tout ça. À la base, regardez comment Dieu a créé les choses. On va aller assez vite, accrochez vos ceintures. Genèse 1, verset 26. Tout est bon dans tout ce que Dieu a créé. Il a toujours constaté en regardant après coup que c'était bon. Puis verset 26 arrive. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On n'a pas le temps de regarder qu'est-ce que c'est d'être créé à l'image de Dieu, mais au minimum, l'homme est comme un miroir. Il reflète des qualités de Dieu, des perfections de Dieu. Et à la fin d'avoir créé l'homme, Dieu regarde et il constate que c'était très bon. Et dernier élément qu'il faut regarder, qui peut-être va vous faire marrer, mais c'est profondément théologique. La page suivante, chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. La nudité était une bonne chose à la base et ils n'en avaient pas honte. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est pour nous montrer bien que ce monde était parfait. On pouvait avoir pleinement confiance l'un dans l'autre. On n'avait rien à se cacher. On n'avait pas besoin d'être sous donner les meilleures apparences possibles. Parce que l'autre nous connaissait parfaitement et nous aimait quand même. Il n'y avait pas encore de défauts. Mais vous voyez ce que je veux dire? On pouvait se connaître parfaitement, sans rien cacher. Et il y avait la confiance qui régnait, l'amour qui régnait. Et ensuite, le projet de Dieu, donc, c'était que un peuple nombreux remplisse la terre à partir de cet homme et cette femme qui étaient créés à l'image de Dieu, qui étaient très bons, qui étaient nus et qui n'avaient aucune raison d'avoir honte de leur nudité. Sauf que Genèse 3 est arrivé par là, donc c'est la colonne suivante si vous êtes dans les Bibles blanches avec moi. Et j'espère que vous suivez encore, ça va aller. On est à la moitié du parcours. Avant que ça commence à devenir une bonne histoire, ça passe par vraiment un moment très sombre dans l'histoire de l'humanité. Et Satan vient tenter Adam et Ève et on voit trois choses. On voit qu'après leur désobéissance aux ordres de Dieu, la nudité devient un sujet triste. C'est verset 7. Après qu'ils mangent du fruit interdit, verset 7, « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Tout d'un coup, ils prennent conscience de leur nudité. On n'a pas le temps de tout détailler, mais au minimum, il n'y a plus la confiance qui règne, parce que si Ève a désobéi à Dieu, peut-être qu'elle va aussi me faire du mal. Et Ève se dit la même chose, si Adam n'a pas été fort pour résister à cette tentation de prendre ce fruit, peut-être que lui va me faire du mal. Tout d'un coup, ils sont conscients de leur nudité et ils ne peuvent plus se faire confiance. Et Dieu se pointe dans le jardin, aussi indice que sans doute il y avait une relation parfaite avec Dieu et il venait se promener avec eux dans le jardin. Et tout d'un coup, ils ne peuvent plus supporter sa présence et ils se cachent avec honte. Et on l'a vu certainement dans nos propres vies avec nos enfants, je pense, qui se cachent après avoir fait quelque chose. Ils savent qu'ils ne peuvent pas supporter la présence de leurs parents. Et vous l'avez peut-être vu avec vos conjoints ou avec vos amis. Quand vous avez menti, quand vous avez trahi la confiance, il y a une gêne qui s'installe. On fuit la présence. Et que tu le saches ou pas, que tu le ressentes ou pas, si tu ne crois pas en Jésus, tu es actuellement en mode te cacher avec des feuilles de figuier à fuir la présence de Dieu. Parce que tu n'es pas en règle. Parce que ton péché t'empêche de le connaître. Et ça continue à s'empirer. On voit ensuite verset 9, les accusations qui commencent entre l'homme et la femme, et on ne va pas prendre le temps, on va avancer. Et troisième chose qui s'empire, il y a des rivalités. Donc non seulement ils commencent à rejeter le blâme, mais en plus, Dieu va annoncer au chapitre 3, verset 16, donc tout en bas de la colonne, la deuxième colonne de votre page, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, tes désirs se porteront vers ton mari. » Et là, on voit dans le reste de ce livre que les désirs, c'est plus des désirs de domination, les désirs négatifs, parce qu'on voit que le péché a des désirs pour nous. Mais lui, il dominera sur toi. Il y a des rivalités. Il y aura maintenant rivalité entre l'homme et la femme dans le couple. Il y aura maintenant des problèmes. Et pourquoi on regarde tout ça? Pourquoi on regarde tout ça? C'est parce qu'on veut comprendre quel est le projet de Dieu en Jésus, avec ce qu'il a fait en venant jusqu'à nous. Son projet inclut restaurer nos relations. Et on arrive à aimer l'assemblée. Il veut restaurer une communauté qui ressemble à ce qu'on aurait pu ressembler si on n'avait pas désobéi Dieu, si on n'avait pas essayé de prendre le pouvoir et devenir Dieu à la place de Dieu. Vous me suivez encore ou pas? Ça va? Ok. Vous avez le droit de dire non aussi. Hein. Et si on regarde l'histoire suivante après cette rébellion, on a deux enfants qui naissent, Caïn et Abel. Et on a le premier meurtre de l'histoire. Si on voulait comprendre plus clairement que le péché bousille nos relations, on ne pourrait pas faire ça. Là, on a Adam et Ève qui, tout d'un coup, ne se font plus confiance. Tout d'un coup, commencent à accuser l'autre. Et Dieu annonce qu'il y aura des rivalités dans le couple. Et leurs enfants s'entretuent par jalousie. Pour un truc débile, ils s'entretuent. Et on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. Si on ne connaît pas la transformation intérieure qu'offre Jésus, on en est là. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. Mais ta famille va continuer à avoir d'énormes soucis. Tes relations vont continuer à te poser plein de problèmes. Parce que nous avons rejeté Dieu. Alors, ce n'est pas très joyeux, mais c'est là où ça se transforme en bonne nouvelle. Dieu nous a aussi raconté la fin de l'histoire. Et on regarde ça, et c'est la fin de la parenthèse avec ce texte-là. Regardez avec moi, donc là, c'est l'avant-dernière page de vos Bibles blanches, la page 821. 821. Trois choses encore à remarquer. Dieu, à la fin des temps, il donne une révélation de qu'est-ce qui va se passer. Il donne une révélation de la fin des temps. Et il annonce un peuple uni qui sera sous son règne. Et dans lequel il sera pleinement à nouveau avec nous. Donc Apocalypse 21, et Apocalypse, hein, c'est un mot qui nous fait peur à cause des films et tout ça, mais en grec ça veut dire révélation, donc c'est une vision. Il faut pas flipper en ouvrant Apocalypse. Apocalypse 21, verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu ou la tente de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et on va s'arrêter là, mais vous avez vu, il y a un peuple et Dieu parmi ce peuple. Et ça, c'est la fin du film. Ou le début du film, si vous voulez, mais le suivant. Ça, c'est la fin du film. Ce que Dieu promet en Jésus, il va commencer à tous nous recréer un peuple. Et on voit ensuite, et ça, on n'a pas le temps de regarder, mais on voit que les portes de cette ville qu'il décrit sont grandes ouvertes, même la nuit. Ben, il n'y a plus de nuit, mais elles sont ouvertes 24 heures sur 24 parce qu'on ne craint plus la guerre, on ne craint plus la malhonnêteté, on ne craint plus la méchanceté. Et on voit qu'il y a un arbre, cet arbre de vie, qui est dans cette ville, dont les feuilles sont pour la guérison des nations. Dieu est dans le projet de guérir les rivalités entre les nations, les choses qui nous démarquent, les choses qu'on utilise pour dégrader l'autre, pour insulter l'autre, pour se démarquer. Dieu va guérir. Voilà, fin de la parenthèse. Donc là, si vous n'étiez plus avec moi, vous secouez un peu la tête et on revient. Si vous êtes toujours là, c'est super. On revient à Colossiens 3. Pourquoi je montre ça? J'espère que c'était utile. Mais c'est Dieu est dans le processus. Depuis que Jésus est venu mourir à notre place pour nos fautes, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, Dieu est dans le projet de se créer ce peuple comme il aurait dû être. Ce peuple à l'image de Dieu, mais sans aucune brisure. On parle souvent de ce miroir cassé. Il continue à refléter des aspects de Dieu, mais le miroir, il est complètement foutu. Nous sommes comme des miroirs qui ont été brisés en mille morceaux. Et Dieu est en train de recoller ces morceaux en nous individuellement et pour former une belle grande image d'une communauté qui l'aime et qui aime son monde. Donc pourquoi l'aimer ? Un, parce que ça fait partie du processus. Pourquoi aimer les uns les autres ? Parce que ça fait partie du processus de transformation que Dieu a commencé en toi le moment même où tu as cru en Jésus pour être sauvé. Et deuxième raison, c'est le verset 15. Pourquoi aimer ? Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. C'est la deuxième raison qui est donnée, mais elle est complètement complémentaire. Dieu a dit clairement son projet de prendre tous ceux qui croient en Jésus et de former un seul corps. Si vous voulez, une seule personne. Et combien est-ce que le manque d'amour, dans ce cas-là, est incohérent? Nous, on a un couple d'amis à Paris, leur enfant de 2 ans a eu des problèmes terribles avec un cancer, un foie qui a lâché, tout ça. Et chaque fois qu'ils font des greffes ou des choses comme ça, la question c'est, est-ce que son corps va tolérer la greffe? Ou est-ce que le rejet va commencer? Ils sont en train de faire les prises de sang régulièrement pour voir, est-ce que la greffe prend? Ou est-ce qu'il y a rejet? Si on comprend que Jésus nous a sauvés pour former un seul corps, tout manque d'amour, toute petite dissension, chaque grain de sable dans les rouages de nos relations, c'est un rejet d'un membre du corps, d'un organe vital. C'est un rejet, c'est inacceptable. Le corps se met en danger. Pourquoi aimer ? Parce qu'on est un corps maintenant. On s'appartient les uns aux autres. On fait partie du projet de Dieu. Et donc, comment aimer ? Comment aimer ? Alors, il y a 9 points, et on ne va pas les regarder. 9 points dans le texte. Je vous en propose une manière qui résume un peu les choses, mais il y en a plein, il y en a plein. Donc, peut-être cette semaine, pour justement te poser la question, comment est-ce que je peux mieux aimer mes frères et sœurs dans l'église de Pont cette année, peut-être reprends cette semaine ce texte et regarde les vertus qui sont là, qu'on est censé revêtir chaque jour. Mais s'il y avait une chose à retirer de cette longue liste de bonnes manières d'aimer, c'est quoi? Moi, je vous propose que c'est se rappeler jour après jour de qu'est-ce que ça a coûté à Dieu de vous pardonner. C'est dans le texte. Ainsi donc, verset 12, « En tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Si des églises se divisent, si nous passons par des moments de division, à chaque fois, c'est le même problème d'après la Bible. C'est qu'on oublie combien Dieu nous a pardonné. On oublie combien ça a coûté à Jésus de laver mes péchés. Et donc, je retiens les fautes des autres. Mais si, jour après jour, on se revêt, comme il dit au verset 12, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, si on met comme habit l'humilité qui vient de se rappeler qu'on n'a rien fait pour que Dieu nous attire à lui, on n'a rien fait pour qu'il nous aime, on n'a rien fait pour qu'il nous pardonne, on a simplement cru en ce qu'il avait fait. On n'a rien fait. Et lui, il a donné sa vie, il a sacrifié tout pour nous pardonner. Et donc comment vouloir, en vouloir à un frère, une sœur, comment refuser de pardonner, comment être irrité et ne pas pouvoir passer outre si Jésus nous a pardonné tout au prix de sa vie. Et c'est là où Paul dit, il parle de supporter, il parle d'aimer, il parle de faire grâce. Certaines traductions, j'aime bien, c'est « faites grâce comme on vous a fait grâce en Jésus ». Le comportement change complètement. Les chrétiens, on n'est pas les meilleurs. On est ceux qui ont enfin constaté qu'on était les pires, que toute la planète est pire, que chaque être humain ne peut pas avoir accès à Dieu, sauf si on croit que Jésus est mort pour nos fautes. On doit commencer d'abord par l'humilité d'avouer on est incapable de se sauver nous-mêmes. On est incapable de couvrir notre honte d'avoir vécu sans Dieu. Et c'est une attitude qui change tout dans les relations dans l'Église. Et on pourrait rajouter quand même je rajoute un deuxième point quand même, puisque la montre, ça va. Donc, première attitude qui change tout, c'est se rappeler qu'est-ce que ça a coûté à Jésus de nous sauver. Ça donne une humilité dans nos relations. Et deuxième chose, c'est rappelle-toi ou rappelons-nous que Dieu n'a pas terminé, ni avec moi-même, ni avec toi. On doit se rappeler ce cheminement. Et c'est bien pour ça qu'on a essayé de regarder de la Genèse à l'Apocalypse ce que Dieu est en train de faire et quel était le problème qu'il devait résoudre. Ce projet de faire de nous un seul peuple qui reflète sa perfection, sa gloire, son amour, son unité. Il n'a pas terminé en toi. Il n'a pas terminé en moi. Moi, je me souviens, il y a des années, je travaillais avec un soudeur, je travaillais sur un bateau, et le gars, un Hollandais, orgueilleux, prétentieux, ouais, il faisait un bon travail, mais franchement, il me gavait à tous les niveaux. Jusqu'à un jour, on est parti dans une église, on devait faire un programme, prêcher, machin, tout ça, dire comment notre témoignage de conversion, comment on avait été sauvé. Et ce gars, il s'appelait Mick, il me semble, Michael, il raconte son passé et il raconte comment il a entendu pour la première fois qu'il pouvait être réconcilié avec Dieu en Jésus. Et franchement, ça a tout changé pour moi ce jour-là. De réaliser que, ouais, il est vraiment casse-pied. Franchement, il est vraiment irritant. Mais Dieu l'a ramené d'un point A, il le ramène à un point Z. Je ne sais pas sur quel point il se trouve actuellement, mais il n'a pas terminé son œuvre de le transformer. Et donc mon attitude là-dedans devrait être de prier pour sa transformation, de l'aimer malgré les choses qui n'ont pas encore changé, parce que Dieu est en train de faire exactement la même chose en moi. Il n'a pas terminé et moi aussi j'irrite les gens, moi aussi je suis casse-pied, moi aussi je pêche. Première chose qui change tout, c'est se rappeler ce que ça a coûté que Dieu nous pardonne. Et deuxièmement, c'est se rappeler cette grande fresque de Genèse à l'Apocalypse, que Dieu n'a pas fini. Si cette personne est une frère, si cette personne est un frère, une sœur en Christ, Dieu a commencé une bonne œuvre en elle et il va l'amener jusqu'à son terme. Il n'a pas terminé. Et donc, qui suis-je pour me mettre en chemin? Bloquer ça. Et c'est pour ça qu'on parle des églises de maison. On est un assez grand groupe et on grandit d'année en année. Et ce serait chouette hein, que le dimanche matin, avec le café, le culte, où on se chante aussi des chants pour s'encourager, où on se rappelle cette bonne nouvelle de ce que Jésus a fait et que tous les moments après le culte soient super utiles pour vraiment s'aider dans ce cheminement. Ce serait top. Mais on n'est pas naïf non plus. On sait que à 80 après le culte, on a quand même plus tendance à parler des enfants, plus tendance à parler de la météo, plus tendance à parler du travail que de qu'est-ce que tu as découvert dans ta marche avec Dieu récemment. Qu'est-ce qu'il est en train de t'apprendre? Qu'est-ce qui est vraiment difficile en ce moment dans ta relation avec lui? Qu'est-ce qui t'a réjoui récemment avec lui? Ça, c'est les genres de trucs que, franchement, à 80, ça se passe pas trop souvent. Et c'est presque normal. C'est tant mieux qu'on vienne pas ici et chaque semaine que chacun dise ses luttes, comment ils ont péché et comment ils n'arrivent pas à surmonter telle ou telle addiction. C'est peut-être tant mieux. Et donc, on a créé ce qu'on appelle des groupes de maison, des églises de maison, on appelle ça. Où vraiment des groupes de 6 à 10 personnes, on peut se retrouver chaque semaine autour de la Bible pour être transparent, en sachant qu'il y a la confidentialité qui est là, qu'on va se dire ce qu'on vit vraiment, pour que Dieu continue son œuvre de transformation en nous et que ce petit groupe soit là pour encourager, pour accélérer ce processus, parce qu'on voit les choses différemment, parce qu'on peut prier les uns pour les autres, parce qu'on peut être une famille dans la famille de l'Église. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est majeur et qui a toujours été important dans l'histoire de l'Église. Les groupes de maisons depuis les actes des apôtres, donc depuis la première Église, les gens se sont retrouvés dans les maisons, ils se retrouvaient pour manger ensemble, ils se retrouvaient pour prier et lire la Bible, prier. Ça a toujours été quelque chose que l'Église faisait pour grandir, pour s'encourager. Parce que le processus va être long encore. Il y aura plein de joie, il y aura plein de tristesse et on a besoin de les vivre en communauté. Donc, comment réagir à un texte comme ça? Alors, déjà, tu peux le prendre et le relire cette semaine et te poser des questions spécifiques. Mais même avant ça, si tu n'es pas dans un groupe de maison, si tu es régulier au culte, ou tu veux être régulier, ça, après, entre les emplois et les difficultés, ça c'est chacun ensuite, on ne juge personne. Mais si tu es régulier au culte, tu veux être régulier au culte, on t'encourage à faire l'étape suivante, à rejoindre un groupe de maison. Donc, il y aura les fiches d'inscription, il me semble, aujourd'hui. On n'a pas vérifié ça. Sinon, c'est envoyé par mail. Mais s'il vous plaît, inscrivez-vous. Il n'y a pas non plus d'engagement. Faites 6 à 8 semaines probatoires, si vous voulez, pour découvrir qu'est-ce que c'est. Mais c'est vraiment un super moyen de vivre ce que dit ce texte, de se revêtir de plein de vertus, de se supporter les uns les autres, pas juste supporter parce qu'il est gavant, mais aussi se supporter dans la prière, se soutenir dans la prière, de vraiment se connaître l'un l'autre, de savoir quelles sont les luttes et quelles sont les joies de chacun, de pouvoir ensuite se pardonner les uns les autres, parce qu'on vit une vie de famille, avec ses joies et aussi ses difficultés. Et, verset 16, c'est un lieu où la parole de Christ, la parole de cette bonne nouvelle, peut habiter en nous. On essaie de chaque semaine reprendre le texte du dimanche pour aller plus loin dans « Et alors, moi, qu'est-ce que Dieu veut changer? Et toi, qu'est-ce que Dieu veut changer? Comment est-ce qu'on répond à ce que Dieu a dit ?» Ce n'est pas reprendre la prédique, c'est reprendre le texte, ce que Dieu a dit. Et parfois, il y aura certaines semaines où on prendra un livre particulier, on abordera d'autres textes. Mais généralement, c'est ça qu'on fait. On veut aller plus loin dans ce processus de transformation qui, un jour, va amener à cet état parfait, cette sainteté, cette gloire, cette beauté, cette unité, cet amour sans aucun défaut. À la croix, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, Dieu il a opéré un désarmement. À la croix, on a dû poser nos armes qu'on utilisait pour lutter contre Dieu, pour venir demander de façon repentante pardon pour notre rébellion, notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Et à la croix, ça veut dire que nous tous, si nous avons cru en ça, si nous sommes venus au pied de la croix pour demander pardon, on est venus les mains vides. On n'a plus d'armes. On les a laissées derrière. Et ce serait tragique dans une église, on retourne et on reprenne les armes et on continue à se battre entre nous. Maintenant que c'est réglé avec Dieu, on continue entre nous. Et ça arrive trop souvent, dès qu'on oublie ce que ça a coûté à Jésus pour nous sauver, et dès qu'on oublie que Dieu n'a pas terminé son processus, et donc c'est pour ça qu'un tel est irritant. C'est pour ça que, franchement, je ne peux plus supporter. Et on doit se rappeler que nous non plus, il n'a pas terminé avec nous. Je vais prier pour nous tous. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais j'espère vraiment qu'on peut avoir confiance que c'est Dieu qui nous donne cette puissance pour ce projet, parce que c'est lui qui promet le clip final. C'est lui qui va garantir que ce peuple se retrouve uni, sans défaut, parfait devant lui. Je vais prier. Père, merci pour cette grâce qui nous a rencontrés tels qu'on était. On ne comprend pas pourquoi tu nous as sauvés, nous, et pas d'autres, parce que franchement, aux yeux des hommes, il y aurait tellement plus méritants que nous. Mais on se rend compte, Père, qu'à tes yeux, il n'y en a aucun d'entre nous qui est méritant. Et c'est par grâce que tu es venu à nous. Père, si quelqu'un ici, ceux ici qui n'ont pas encore cru en toi, cru en cette grâce que tu offres, qui ne sont pas encore agenouillés devant ta perfection, s'il te plaît, montre-leur ton plan pour eux. Et Père, tu vois que nous, on est tous en chemin et parfois on désespère, je ne sais pas dans quelle attitude est chacun, ce matin, entre l'encouragement, le découragement des années de vie chrétienne. S'il te plaît, aide-nous cette année à vraiment progresser notre mission en tant qu'Église. Aide-nous à être une communauté rayonnante d'amour qui rapidement pardonne, rapidement supporte, aime comme on a été aimé. Et Père, je te prie pour nous tous qui allons rejoindre une église de maison cette année, aide-nous, s'il te plaît, à vraiment jouer le jeu, à être là pour les autres, pour les encourager dans leur marche avec toi. Et s'il te plaît, bénis-nous, parce qu'il y a plus de bonheur à donner que recevoir. Donc aide-nous, s'il te plaît, à donner beaucoup et rencontre-nous. Amen.